Et donc, bienvenue sur Sortir du capitalisme pour une note de lecture autour de l'ouvrage d'Emmanuel Bolella, Réfugié, paru aux éditions Libertalia en 2017. Alors, c'est un ouvrage poignant qu'on lit d'une traite ou presque. La condition de réfugié, de migrant, peu importe qu'il s'agisse des mêmes victimes du capitalisme mondial, des dictatures et des guerres civiles des périphéries du système monde capitaliste, ou encore du patriarcat, y est décrit de manière brute. Brute, et c'est en effet un parcours d'une brutalité inhumaine, parsemé de rackettes, de violences et de viols, et avec souvent au bout une mort violente que nous décrit l'auteur, réfugié congolais. Et encore ce récit, pourtant difficile, est-il en dessous de l'horreur vécue par un grand nombre d'émigrants et d'émigrantes. Notre auteur vient d'une famille de classe moyenne, cultivée, et c'est un homme. Il nous raconte donc, mais sans l'avoir vécu, des viols, des morts, des migrants et migrantes obligés de s'arrêter en chemin faute d'avoir de l'argent pour acheter leur passage, et donc de se prostituer, sexuellement ou autrement, à un prix misérable. Les éditions Libertalia ont été promptes, avec l'encouragement de Paul Braun, à publier ce témoignage indispensable, d'abord paru en allemand en 2014, et ce, de plus, à un prix abordable. On pourra donc s'en féliciter. La couverture est également réussie et on appréciera qu'il y ait une écriture inclusive. Quoi de plus logique lorsqu'on sait qu'environ 50% des migrants sont des migrantes? Et là-dessus, on renvoie à une émission de Dégenré sur les migrantes. Inutile, en revanche, de chercher d'en réfugier une théorie critique des causes profondes de l'émigration et de ses horreurs. L'auteur se contente d'une dénonciation susceptible de faire écho à un grand nombre de personnes, avec un langage entre guillemets démocratiste, ce qui n'est en l'occurrence nullement un reproche, évidemment. Et on essaiera seulement de pointer quelques pistes d'analyse critique à partir de son ouvrage et de sa note de lecture. Dans sa préface à l'édition française, l'auteur entame d'emblée avec un fait d'actualité, celui d'une embarcation échouée avec 700 migrants et migrantes à son bord en mai 2016. Corps sans vie de migrants sur le rivage de la Méditerranée. Ces êtres humains n'ont pas de pays ni de nom, on les nomme tous et toutes clandestins. Leur vie n'a aucune valeur et leur mort ne provoque plus aucune émotion. On exhibe les dépouilles sans aucune marque de respect. Est-ce pour dissuader les autres? Fin de la citation. Bien évidemment, cela témoigne également du statut du migrant prolétaire racisé au sein du capitalisme mondial de crise. Un statut de déchet social, entre guillemets, de non rentable, de sous-prolétaire. L'auteur poursuit. L'Europe se barricade. Les frontières sont hermétiquement fermées. Des murs se construisent. Pour renforcer encore ce dispositif, l'Europe a lancé en novembre 2014 le processus de Khartoum, soit des accords avec la Somalie, le Soudan, l'Afghanistan, l'Érythrée et l'Éthiopie, afin, entre guillemets, de renforcer leurs capacités en matière de gestion de la migration. Autrement dit, l'Union européenne entend favoriser le contrôle des victimes par ceux qui les persécutent. Les voies légales d'immigration se rétrécissent comme peau de chagrin. Même le regroupement familial est devenu quasiment impossible. C'est ainsi que des femmes et des enfants en viennent à risquer leur vie sur des embarcations de fortune. Si l'on s'en demande comment c'est possible, c'est que l'on oublie les obstacles dressés par leur route par les États européens. Frontex, les polices des frontières et les bureaucraties nationales font preuve d'une redoutable efficacité dans la dissuasion des candidats à l'immigration. Fin de la citation. Il raconte l'histoire de Holla, morte noyée avec ses enfants au milieu du détroit de Gibraltar à cause d'un bateau surpeuplé, préalablement saboté par des passeurs. C'est l'histoire d'une vie parmi tant d'autres. 200 000 personnes sont mortes en 20 ans en tentant de rejoindre l'Europe et près de 4 000 rien qu'en Méditerranée en 2016. Je cite l'auteur, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, entend-on. Et je rajoute, pourtant, elle en est en grande partie responsable. Je continue avec l'auteur. Au nom de ce principe, les Européens laissent mourir des hommes, des femmes et des enfants devant leurs portes. La Méditerranée est devenue la fosse commune de milliers de migrants. Fin de la citation. C'est leur histoire, celle des victimes du capitalisme, de l'État, du racisme et du patriarcat, qui va être racontée. Avant-propos, une histoire parmi d'autres. L'auteur commence par un rappel de l'abominable situation en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre et aussi ex-Congo belge. Périphérie dominée du capitalisme mondial, en proie à une guerre civile sanglante depuis une vingtaine d'années et une dictature depuis un demi-siècle. Là-dessus, on renvoie notamment au livre de David von Reybrouck, Congo, une histoire, publié aux éditions Actes Sud en 2012. L'avant-propos démontre une certaine naïveté politique de l'auteur, qui peut être liée à sa position originaire de classe moyenne ayant fait des études de sciences économiques, en appelant aux droits de l'homme et en aspirant à un capitalisme social-démocrate redistributeur des richesses minières du Congo. Après, pour être honnête, il est vrai qu'en Afrique, c'est déjà difficile d'obtenir un capitalisme non dictatorial. Au pays du Congo à la République démocratique du Congo. Dans ce chapitre, l'auteur fait un rappel de l'histoire du Congo, qu'il faut distinguer du Congo-Brazzaville, ex-Congo français. Et là-dessus, on pourra lire le rapport Brazza, mission d'enquête au Congo, rapport et documents, publié aux éditions Le Passager clandestin en 2014. Histoire du Congo, depuis l'infâme colonisation belge, son travail forcé et ses millions de morts. Là-dessus, on lira notamment l'ouvrage d'Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold, la terreur coloniale dans l'État du Congo, 1884-1908, publié aux éditions Talendi en 2007. Il rappelle également l'assassinat de l'indépendantiste Lumumba, qu'il regrette, sans doute à raison, mais c'était tout de même un bourgeois social-démocrate qui se serait sans doute révélé autoritaire. Mais après, c'est vrai qu'après 30 ans de Mobutu, on comprend ce regret. Interminable dictature de 1965 à 1997 de Mobutu, son pillage des revenus miniers et sa fin de règne génocidaire. Et enfin, une période de guerre civile qui commence à partir du génocide rwandais et son exportation en République démocratique du Congo. En gros, chaque pays voisin a sa propre faction armée et joue ses propres cartes dans l'optique d'une appropriation des richesses minières de l'Est du Congo, ce qui nous donne au minimum 5 millions de morts depuis cette période, des processus de démocratisation jamais aboutis et une dictature perpétuellement renouvelée, celle des Kabyles. Le Congo a été exploité pour son ivoire, son caoutchouc, son uranium et enfin son coltan, et ce de manière particulièrement prédatrice, avec une surexploitation incroyable. Voilà le tableau qui nous dresse du Congo. Emmanuel Mbolela, l'auteur, né dans ce pays, qu'il vante beaucoup par sa beauté et sa diversité, en 1973, dans une famille de classe moyenne de l'opposition, et fait des études de sciences économiques. Ceci explique son adhésion au mouvement social-démocrate d'opposition non violent. Après, c'est vrai qu'en face, il n'y a que des factions armées et une dictature. Et sa croyance dans un idéal qui nous paraît un peu suranné vu d'ici, mais qui en République démocratique du Congo constituerait néanmoins une franche amélioration. Il est peu critique vis-à-vis du patriarcat traditionnel dans son pays. Il faut dire que son père était chef de famille avec plusieurs épouses. Il y avait une ségrégation genrée au niveau des repas, mais il devient plus lucide sur cette question au fur et à mesure de son périple. Il raconte ensuite son engagement politique au sein de l'UDPS, un parti social-démocrate non violent, et milite en faveur d'une redistribution des richesses, ce qui est une bonne chose mais insuffisante, et d'un état de droit, qu'on connaît, mais c'est vrai qu'en République démocratique du Congo, il n'y a même pas ça. En 2002, il participe à une grande manifestation non violente qui s'achève par des arrestations, des incarcérations, des tortures et des morts. Il s'évade grâce à sa famille au bout de 2 mois de prison et décide, sous contrainte, de s'exiler. L'exil est toujours une contrainte, parfois un peu une opportunité, mais fondamentalement une contrainte. Personne ne souhaite quitter ses proches et son environnement de vie, sauf si cette personne est opprimée par une dictature, qu'elle veut fuir un patriarcat étouffant ou une misère insoutenable. Les migrants et les migrantes ne sont pas une arme du capital, comme on l'entend du côté de l'extrême droite, notamment de Francis Cousin, mais des victimes du capital, de l'État, du néocolonialisme et du patriarcat, et victimes non pas dans le sens de pauvres hères abandonnés, mais dans le sens de personnes qui cherchent justement à dépasser cette situation, et ils cherchent, comme tout sujet humain, à survivre et à améliorer un peu une vie proprement insupportable en raison de ces systèmes d'oppression. En route, le temps de l'exil. L'auteur commence ce nouveau chapitre par une présentation de ses compagnons d'exil. Je cite. Il y avait celles et ceux qui fuyaient les guerres de l'Est du Congo. Leur visage était marqué par les souffrances endurées. Certains avaient vu leurs parents brûlés vifs. D'autres avaient été violés ou contraints, sous la menace des armes, de violer leurs propres parents, leurs frères et sœurs. Je me souviens de l'un d'eux qui me disait que son esprit était resté au pays. Il revoyait sans cesse les atrocités auxquelles il avait assisté, en outre ses sœurs violées et enlevées par les militaires. Tous n'étaient pas des fugitifs, certains, poussés par la misère, avaient choisi de partir à l'aventure. Fin de citation. Il ne faudrait toutefois pas opposer des réfugiés politiques et des migrants économiques. Tous deux sont des victimes du système capitaliste mondial, du même système. Ces premiers, les réfugiés politiques, étant simplement des victimes de ses conséquences politico-militaires, et ces derniers de ses conséquences socio-économiques. Mourir dans un bidonville ou dans une guerre civile, survivre avec peine dans un cas comme dans l'autre, y a-t-il une énorme différence? Certaines fuient enfin en raison d'une terrible oppression patriarcale, comme je cite, comme cette béninoise. Sa fille aînée était morte 3 ans auparavant des suites de son excision, qui était d'ailleurs justifiée par Freud, hein. Mais sa belle-sœur avait tout de même insisté pour que la cadette soit excisée à son tour, ce qui aurait provoqué une telle mésentente qu'elle s'était résolue à divorcer et à prendre la fuite avec sa fillette. Fin de citation. La classe d'origine est un facteur déterminant. Début de citation. Du Congo-Brazzaville au Mali, la circulation dépend du contenu de votre bourse. Tant que cette dernière se porte bien, vous pouvez vous rendre sans problème d'un pays à l'autre. Il faut juste savoir coopérer avec les gardes-frontières, c'est-à-dire savoir leur glisser discrètement de l'argent dans la main. Ceux qui n'en ont plus et qui n'ont pas de proches en Europe ou au pays pour leur envoyer un mandat, restent sur place et doivent chercher du travail. Fin de citation. L'auteur reste au Mali, à Bamako, en espérant un dénouement favorable au énième dialogue intercongolais. Ses compatriotes d'un milieu maudit, modeste lui disent qu'il ne faut pas y croire, lui continue d'y croire en raison de ses origines sociales, et finalement c'est eux qui ont raison. Je cite. Moi, j'avais confiance. J'avais calculé qu'une fois rentré au pays, je profiterais des 2 ans de transition vers la démocratie prévue dans les projets d'accord pour terminer mes études universitaires, puis entamer une carrière politique. Je pensais que m'engager dans la politique était un bon moyen de contribuer au changement qui permettrait le développement du pays. Mais l'analyse de mes camarades, qui se fiaient moins que moi aux diverses déclarations et discours officiels, se révéla plus lucide que la mienne. Fin de citation. Ici, l'auteur laisse poindre ses illusions bourgeoises de devenir un politicien intègre, alors même que c'est l'État capitaliste lui-même qui est un problème. Illusion toujours, je cite. Je décidai de continuer mon chemin, d'aller où je pourrais poursuivre la lutte, où mon cri pour l'instauration d'un État de droit et de la démocratie dans mon pays serait entendu par les hauts décideurs de ce monde. Mon espoir était de me retrouver dans un pays où règne l'ordre, la paix et surtout la liberté. Je devais donc me préparer à demander l'asile dans un pays d'Europe. C'est là qu'on voit l'empereur des illusions vendues au monde entier, dont d'ailleurs l'auteur s'est partiellement rendu compte lorsqu'il est arrivé en Europe et en fréquentant des militants européens. L'auteur décide donc de poursuivre sa route en direction de l'Algérie. Mais en Algérie, sa couleur de peau sert de marqueur, de signe, à un statut social de migrant prolétaire racisé. Il est donc tendanciellement identifiable comme tel. Ce n'est pas un type physique que s'en prend des individus et ou une institution raciste, en l'occurrence policière. C'est un type d'individu non national, donc illégal, sous-prolétaire, racisé du fait de son infériorité dans l'ordre du capitalisme mondial. Et ici, le physique couleur de peau, très caractéristique, etc., n'est qu'un marqueur censé permettre au premier coup d'œil de repérer ce certain type d'individu. Mais c'est un marqueur décisif. Je cite, dorénavant, nous serions trahis par la couleur de notre peau. Fin de citation. L'auteur s'embarque donc dans un périple dangereux, et d'autant plus si on est une femme. Celles-ci sont violées tout au long du périple par des policiers maliens, puis par des policiers algériens, et parfois par des bandits du désert. Mais l'auteur reste un peu naïf. Je cite, si nos pays avaient été bien gouvernés par des dirigeants soucieux du bien-être de leur population, ces femmes n'auraient pas subi cette violence. Pourtant, elles sont agressées quotidiennement par leurs conjoints et ou d'autres hommes, même en Europe. Les passeurs sont généralement des ordures, des entrepreneurs de trafic humain, violant leurs voyageuses avec leurs complices. La migration a un genre, comme l'a montré Jules Falquet. Après de nouveaux rackets et avoir failli mourir de faim, de soif et de fatigue, l'auteur arrive dans un ghetto migrant du sud de l'Algérie, où il est de nouveau racketté et est témoin du réseau de prostitution des Nigérianes. Accompagné de leur proxénète, qui est un mélange de contremaîtres et de capitalistes, une vraie ordure. Je cite, les jeunes filles nigérianes étaient affreusement maltraitées par les membres de leur propre communauté, qui les abusaient sexuellement et qui les vendaient aux membres des autres communautés et aux policiers algériens. Mais les Nigérianes n'étaient pas seules à subir la violence des hommes. Les femmes de tous les ghettos y étaient exposées. Et elles étaient aussi terrorisées que les militaires, par les militaires et les policiers, qui venaient les chercher le soir et les ramenaient tôt le matin. Fin de citation. En route vers Tamanrasset, ville du sud algérien, l'auteur est de nouveau racketté de 520 dollars après une fouille y compris anale par des brigands, sans doute complices du chauffeur. Après avoir de nouveau failli mourir d'épuisement et de froid, l'auteur arrive là-bas et est contraint de travailler. La surexploitation des migrants est abominable. Et oui, il n'y a pas qu'en France, la surexploitation raciste existe partout. Je cite, on travaillait dans des conditions d'esclaves. Tu travaillais durement pour être payé en monnaie de misère. Parfois, on te faisait vider les WC sans aucune précaution d'hygiène. Tu n'avais aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Parfois aussi, tu travaillais, mais à la fin, on te congédiait sans te payer et en menaçant d'appeler la police si tu protestais. Tamanrasset était aussi un lieu de prostitution pour les femmes. Certaines étaient obligées de recourir à ce moyen pour continuer leur voyage. D'autres y étaient contraintes par l'homme accro. Fin de citation. En route vers Alger, l'auteur est de nouveau racketté par des policiers. Arrivé là-bas, il croit être arrivé au bout de ses peines, mais va vite déchanter. Je cite. Dans la rue, la plupart des regards sont des regards de dédain. Nous sommes tout juste bons pour les travaux les plus pénibles et les plus salissants. À Alger, surtout dans les quartiers populaires, être noir, c'est être exposé à toutes sortes d'humiliations. On nous traite d'Asie, ce qui veut dire esclave. Certains jeunes n'hésitent pas à nous jeter des pierres en criant Asie! Les discours haineux sont également propagés par la presse algérienne. Fin de citation. Ce témoignage montre bien qu'il existe structurellement du racisme partout au sein du capitalisme mondial, même des Algériens envers des Africains subsahariens, loin d'être l'apanage exclusif des ex-colonisateurs, lesquels sont évidemment des sujets racistes, contrairement à ce que voudrait nous faire croire une Ouria Boutelja. Mais si on pourrait croire que ce racisme n'est qu'une affaire d'ex-colonisés, en revanche, il n'en est rien. Je cite. Ce traitement inhumain dont nous, les subsahariens, sommes victimes dans les pays du Maghreb, a été fortement encouragé par, entre guillemets, l'externalisation de la gestion des flux migratoires, fin des guillemets, comme disent les eurocrates. L'Union européenne accorde des moyens considérables à ces pays pour protéger ses frontières, tout en sachant bien que les droits humains les plus élémentaires y sont foulés aux pieds. La politique européenne contre l'immigration clandestine est directement responsable de la mort des migrants et migrantes dans le désert, des noyades en Méditerranée et de l'intensification du racisme et de la xénophobie. Fin de citation. L'État algérien, toutefois, n'est guère en reste. Début de citation. À Alger, les migrants et migrantes sont sans cesse menacés d'être arrêtés et expulsés. On les voit rarement circuler librement dans les rues de la ville. Seules les femmes et leurs bébés trouvent grâce, mais là encore, elles doivent en payer le prix. Les mêmes policiers qui ont terrorisé le ghetto dans la journée reviennent la nuit exiger des services sexuels des femmes, et celles qui osent refusent et est menacée de refoulement. Fin de citation. Ces femmes migrantes sont ainsi au croisement de trois oppressions, de genre, racistes et étatiques. Mais même en prison, les migrants et migrantes sont victimes de leurs propres codétenus. Début de citation. Ces prisonniers, pour la plupart algériens, torturent, violent, font subir toutes sortes d'atrocités. Fin de citation. Preuve, s'il en est, qu'on ne peut s'en tenir à un grand discours autour de l'unité naturelle du prolétariat et de sa solidarité indéfectible. Celui-ci est structurellement segmenté et sera tel jusqu'au dépassement de cette segmentation au sein d'un processus révolutionnaire de communisation. L'auteur, lui, reste en revanche épargné par une partie des oppressions, patriarcales mais aussi de classe. Je cite, Une jeune fille malienne me demanda où j'habitais. Je lui répondis, à Delhi Ibrahim. Elle s'exclama, Mais tu as l'air instruit. Qu'est-ce que tu fais à Delhi Ibrahim? C'est un quartier de clandestins. Tu ne peux pas rester là-bas. Elle semblait un peu abattue. Ce que je lui disais ne collait pas avec l'image qu'elle se faisait du migrant. Les étudiants ont très souvent un a priori négatif sur les migrants, qui sont forcément de pauvres hères sans instruction. La plupart de celles et ceux qui étudient à l'étranger sont issus de familles aisées ou même de familles proches du pouvoir. Fin de citation. Finalement, l'auteur trouve refuge auprès d'étudiants congolais d'Alger avant de s'en aller au Maroc. La traversée de l'Algérie au Maroc fut également difficile, puisqu'à un moment, l'auteur se retrouve caché dans une zone semi-désertique en attendant un passeur. Je cite, Nous avions froid, soif et étions réduits à rester allongés par terre et à regarder tourner les hélicoptères. Fin de citation. Après s'être rapproché de la frontière, début de citation, la douzaine de kilomètres qui séparent les deux villes, donc Oujda au Maroc et Magnia en Algérie, est une zone pleine de dangers. Les épines, les pierres, les trous et surtout les chiens de garde des fermiers, les agresseurs, les policiers. À trois reprises, nous fûmes attaqués par des chiens qui arrivent à plusieurs, parfois même en meute. Cette fois-là, je sentis une nouvelle fois la mort toute proche. Fin de citation. L'auteur est une nouvelle fois racketté par son passeur d'Oujda jusqu'à Rabat, lui demandant 300 euros sous peine d'être tabassé. En attendant, il est parqué avec d'autres migrants et migrantes dans une chambre d'où ils ne peuvent sortir, sans nourriture, sans couverture, sans matelas, intégralement dépendant de leurs hôtes, entre guillemets, pour l'achat de produits extérieurs et escroqués au passage. Malgré un harcèlement policier, quatre contrôles en un trajet de train et des dangers supplémentaires liés au fait qu'il a aidé une migrante, l'auteur arrive finalement à Rabat en octobre 2004. Là-bas, il est entassé dans un appartement de trois pièces occupé par plus de 15 personnes et est contraint de ne sortir qu'à minima pour éviter d'être arrêté. C'est la fin de la première partie de cette note de lecture radio.
suis parti sans guide, sans boussole. Et les cris de ma mère par-dessus mon épaule. J'ai pris mon élan une fois, dix fois. Sauté par-dessus les cris comme papa. Où aller? Où aller? Où aller? Oh, je ne sais pas où aller. Dans les rapaces, son bras sur tes tombes. J'ai pris les vagues au milieu de la mer qui brille. Mais elles ont fait tomber toute ma famille. Aïe, aïe, aïe. Où aller? Où aller? Où aller? Je ne sais pas où aller. Je me souviens plus, j'ai été réveillé par une voix sèche qui m'a dit tes papiers. Et puis je me souviens que dans cet ouragan, on m'attendait la mer, mais elle portait des gants. Où aller? Où aller? Où aller? Où? Je ne sais pas où aller.